Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et pour débriefer l'actu pendant une heure ce soir, nous avons Bruno Guguier-Minetti qui est avec nous en visio depuis le Québec. Salut mon Bruno.
Salut, je vous dis bonjour ou bonsoir chez vous.
Quelle heure il est là chez toi?
Ah, il est 13h30.
Eh bien voilà, Bruno sort du la déjeuner. Est-ce que tu as la canicule au Québec en ce moment, mon cher Bruno?
Écoute, nous, on ne se plaint pas parce qu'il fait 25 degrés et ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez présentement.
Bon, bah écoute, en tout cas, merci d'être là. Bruno Guguier-Minetti, qui est journaliste, bien sûr, animateur de son carnet de l'actualité numérique et de ses 120 secondes de tech que vous pouvez écouter tous les jours, à loisir, n'hésitez pas, on en devient vite accro. Nous avons aussi avec nous Enguerrand Renaud. Salut Enguerrand.
Salut François.
Directeur de la rédaction de Satellifact. Voilà, pour tous ceux qui travaillent dans les médias, qui sont dans le spectacle, le divertissement.
Le cinéma.
C'est le média à suivre.
Voilà.
Et voilà, pour avoir des informations de toute première fraîcheur sur ces sujets. Et Tristan Nitto est avec nous aussi ce soir. Salut.
Bonsoir.
Tristan. Directeur associé commun numérique et anthropocène chez Autoc Technologie. On va parler donc de Huawei qui aurait trouvé, écoutez bien, la formule gagnante pour rivaliser avec les meilleures puces du marché. Il ne cherche plus en fait aujourd'hui à copier des technologies dont il est coupé à cause d'embargos, notamment américains, mais plutôt à développer une nouvelle façon de faire des puces. Par exemple, une page blanche, avec l'objectif d'être dans 5 ans au même niveau que les produits américains les plus performants du marché. Erwan Morris nous raconte tout ça.
Pékin rêve d'autonomie stratégique, Huawei est peut-être en passe de lui offrir. Le géant chinois travaille d'arrache-pied à rattraper son retard face à des Américains loin devant. Privé des machines de gravure d'ASML essentielles à la fabrication de puces haute performance pour alimenter les systèmes d'IA, Huawei creuse une voie parallèle, une nouvelle architecture pour la première fois basée sur la loi de Tau plutôt que la loi de Moore. En d'autres termes, une technologie qui s'attache à réduire le temps de propagation du signal plutôt que de réduire la taille des transistors. Et c'est donc avec cette technologie que sa toute dernière puce Logic Folding va être industrialisée cette année. Une contrainte, malgré tout, l'important risque de surchauffe de ce système. Les ingénieurs de Huawei vont devoir trouver des solutions pour dépasser cette limite avant d'espérer un déploiement dans les data centers. Ils visent 2031. En attendant, cette puce devrait être intégrée pour la première fois à l'automne dans son smartphone, le Mate 90.
Voilà, c'est intéressant parce que, bien sûr, aujourd'hui, on le voit, l'or technologique, c'est les puces. Et celui qui tient la recette de la puce la plus puissante, en tout cas la plus, on va dire, passe-partout, a tout compris. On le voit aujourd'hui avec TSMC, ASML, qui est notre champion européen, qui lui fabrique les machines qui permettent en fait d'imprimer ces processeurs, se portent très très bien aussi. Comme le disait et l'expliquait Erwan, depuis des années aujourd'hui, Huawei subit en fait les embargos américains et n'a plus accès à ces dernières technologies. C'est intéressant de voir que dans la difficulté, l'humain, mais d'une manière générale, les Asiatiques arrivent à trouver des solutions pour non seulement rivaliser avec, s'affranchir des technologies occidentales, mais aussi rivaliser technologiquement. Quel est ton point de vue, Tristan? T'as suivi un petit peu cette histoire?
Ah oui, va falloir faire la part des choses parce que, c'est intéressant. Ils se mettent à mettre des transistors, à empiler des transistors. Et ça, en fait, il y avait déjà des recherches sur le sujet, faire de la 3D, enfin, au sens de empiler. Donc, s'ils n'ont pas utiliser le mot 3D, mais c'est exactement ce que ça veut dire. C'est au lieu de faire ça sur quelque chose de plat, et ben en fait on le fait en deux,
oui, c'est
en
comme
trois dimensions.
Au lieu de faire une maison plein pied, tu fais des immeubles. Quoi.
Voilà, c'est ça. Avec les problèmes bien soulevés, c'est que ça pose des problèmes de refroidissement, parce que ton transistor au milieu, il est isolé du reste.
Et ouais, tous les étages chauffent.
Voilà, exactement. Comme tu peux ne pas, c'est dans ton immeuble, si ton voisin il chauffe bien en dessous, t'as pas besoin de. c'est un peu le même
c'est
truc.
Ça. Les voisins ne chauffaient pas en ce moment. Hein, c'est pas la peine, s'il vous plaît. C'est pas la peine.
Par contre, s'ils ont la clim, ils peuvent la mettre plus fort.
Oui, un peu plus fort. Ça nous irait bien.
Et par contre, après, c'est savamment habillé de marketing, c'est-à-dire que leur loi de taux, ça remplace la loi de Moore, etc. En fait, la loi de Moore, c'était juste de la planification industrielle, en se disant, oh, bah, si on continue à investir en R&D, on devrait arriver, ou on se fixe comme objectif de d'être deux fois plus puissant tous les deux ans. Bah, en fait, ils appellent ça loi de taux, mais ils font de la loi de Moore eux aussi, quoi. C'est juste qu'ils ont trouvé un nouveau nom comme si c'était absolument révolutionnaire. L'innovation est intéressante, mais c'était pas les seuls à travailler sur le sujet. Et ils sont quand même drôlement en retard. Donc, ils vont peut-être être les premiers à faire beaucoup de circuits en 3D. Ok, c'est bien. Enfin, je veux dire, ça va mettre la pression aux autres industriels, mais ils vont peut-être rattraper un peu de leur retard.
Ouais, ils disent que en guérant dans 5 ans, ils seront au niveau des Américains. Ils ont rattrapé leur retard avec cette
technologie. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ce qui est
c'est la loi de l'échelle de taux. Exactement.
Ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que Huawei se réinvente toujours sous contrainte. Effectivement, ouais. En 2020, on l'a retiré. Il était numéro un des smartphones. On l'a retiré. Il a réussi à faire un OS totalement chinois et qui marche très bien parce qu'il a retrouvé. Il est premier en Chine, qui est quand même le premier marché mondial. Là, on lui interdit d'avoir accès aux dernières technologies et surtout à ASML. Si t'as pas de machine à ASML, tu peux pas graver. Hein. Non. C'est aussi bête que ça. Effectivement, tous les fondeurs, les TSMC, tout ça sont arrivés. On est à entre 5 et 2 nanos, même en dessous de 2 nanos. Et là, c'est impossible sans machine à ASML. Donc, ils sont obligés de se réinventer. Effectivement, derrière, est-ce que la réalité de la loi de taux est aussi intéressante que ça? Moi, j'avais vu, effectivement, dans quelques labos, dont un à Grenoble, faire des puces en 3D. Beaucoup de gens travaillent dessus. Est-ce que c'est aujourd'hui au niveau industriel? Parce que le problème quand on est dans les puces, c'est que c'est des niveaux industriels stratosphériques, quoi. Donc on fait pas un prototype. Donc ça, il va falloir voir si on est déjà passé ce qu'on dit à l'échelle. Et puis on peut, vu ce qu'ils ont fait les dernières années, on peut leur faire confiance. Ils vont trouver des solutions pour contourner tous les embargos qu'on leur a mis. Alors dire après qu'ils vont rattraper les numéros 1 mondiaux d'ici à 2030-2031. Ouais. Écoute, on en discutera, ça, mais bon, je suis franchement pas sûr.
Bruno, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je trouve ça intéressant de les voir ressortir. On a l'impression qu'ils avaient été lancés dans les câbles et à chaque fois, ils reviennent. Mais là, ce coup-ci, ce que je trouve intéressant, oui, il y a le contexte où, justement, on leur avait fermé tous les accès pour utiliser des technologies qui existaient déjà. Mais là, il y a aussi un contexte politique où l'administration chinoise a pas fortement recommandé, mais a obligé toutes les agences, tous les ministères, tous les tenants et aboutissants de l'administration chinoise d'utiliser uniquement du matériel qui va être fabriqué, mais de la puce jusqu'à l'appareil, là, qui est d'origine chinoise. Alors évidemment, il y a le vent, il y a toute une industrie finalement qui attend, et moi j'ai bon espoir de les voir, probablement même avant 5 ans, d'arriver avec quelque chose qui pourrait faire la différence sur le marché. Évidemment, ça va rendre nerveux des gens comme Nvidia et des voisins taïwanais, parce que Huawei nous a montré avec le temps que quand ils veulent, ils le peuvent sous la contrainte, et je pense que tous les éléments sont là pour qu'ils arrivent une fois de plus à s'en sortir.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train de gagner leur indépendance au niveau des processeurs, au niveau des logiciels, parce que la conclusion d'Erwan était très intéressante sur le fait que ils vont sortir un prochain smartphone avec cette technologie, c'est-à-dire que c'est même pas encore du prototypage, ça existe déjà chez eux, et ils ont leur propre Android, hein, qui n'est même
sûr,
plus en Android,
c'est
je
un
crois
propre OS, ouais. Ouais.
Voilà,
ouais.
ils ont créé
ouais.
leur propre soft, leur propre processeur. C'est incroyable de voir à quelle vitesse la Chine arrive à avoir son indépendance technologique totale.
Mais ça, en fait, on les a un peu forcés à contourner l'obstacle en leur disant « Ah, c'est fini, vous avez plus accès aux machines ASML. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. » Et ça, c'est bien avec le gouvernement qui suit, qui encourage, donc qui pousse à l'achat de technologies locales. Évidemment, ça fait un appel d'air et ça permet de, parce qu'ils sont suffisamment bons, ça leur permet de libérer un marché pour la techno chinoise et la faire avancer à marche forcée. C'est fort.
Est-ce que finalement, enfin oui, vas-y Enguerrand, parce qu'après j'avais une question collégiale sur ce sujet.
Je disais qu'après, il y a une course, la loi de Moore est toujours là, hein, et je disais qu'on en est à 2 nanos, moi je me souviens très bien.
Il y a une partie marketing sur les 2 nanos, hein, il faut se méfier.
Il y a une partie marketing, quand on arrivait, on disait on descendra pas en dessous de 7, on est arrivé à 5, on est arrivé à 2, mais c'est quand même c'est pas l'intégralité du marché. Hein.
Du très haut de gamme.
C'est du très 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 haut de gamme pour effectivement ça vaut très cher, ça demande ça nécessite des investissements énormes mais gigantesques en milliards pour pouvoir produire ça et c'est pas l'intégralité du marché. Il faut quand même
c'est clair.
Voilà. Donc ce que je veux dire, dans le marché mondial, il y a de la place et que Huawei prenne toute sa place dans le marché mondial, ça c'est sûr. Que Huawei soit à la pointe, on the edge, et devant TSMC, ça c'est moins sûr. Voilà.
Tu veux dire TSMC.
TSMC.
Ouais.
C'est ce qu'il fait.
Bruno, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou j'enchaîne avec question?
Non, je pense que tout a été dit. Il faudra voir. Il faut laisser le temps pour.
Moi, ce que je trouve intéressant et assez étonnant, c'est que finalement, en privant toutes les technologies occidentales à la Chine, on leur a donné une émancipation qu'ils n'auraient peut-être même pas imaginée si on avait continué à leur donner toutes ces technologies.
C'est un dilemme, mais en faisant ça, les États-Unis ont gagné du temps. Parce que encore une fois, ils les ont privés de toutes les technologies en 2020. D'accord. En 2020, Huawei était numéro un mondial. Ils ont reculé. Ils étaient numéro un mondial des smartphones. Les États-Unis, ils savent très bien que les Chinois trouveront d'autres solutions, mais simplement ils achètent du temps. D'accord. Et du temps, c'est extrêmement précieux aujourd'hui parce que en 2020, ils les ont contraints. Et entre-temps, en 2023, il y a eu l'IA. Et donc, les États-Unis avaient encore un coup d'avance sur l'IA. L'important pour eux, c'est toujours d'avoir le coup d'avance. Et si on avait laissé Huawei ou n'importe quel autre Chinois, c'est eux qui auraient eu le coup d'avance sur les prochaines technologies. Et je pense que les Américains, leur obsession, c'est d'acheter du temps.
Oui, c'est sûr. Bruno, t'as pas l'air d'accord.
Non, c'est juste que je repense à une entrevue que j'avais lue avec le grand patron d'NVIDIA et qui disait que pour lui, évidemment, il est partie prenante dans l'histoire, mais il trouvait que pour lui, c'était un échec, l'approche américaine, parce qu'effectivement, ce qu'on faisait, c'est qu'on obligeait les Chinois à trouver leur propre solution. Et qu'à moyen terme, peut-être qu'un peu, comme le disait juste auparavant, l'histoire de on gagne du temps, mais le problème, c'est qu'on avait toujours un genre de contrôle par rapport à la technologie à laquelle on les laissait accéder. Et là, c'est fini. Là. À partir du moment où ils vont trouver leur propre chemin avec leur propre technologie, il n'y en aura plus de contraintes, il n'y en a plus de contraintes. Et là, les Chinois vont partir dans leur sens. Et là, on va voir les Américains courir après.
On peut comparer ça avec l'Europe, où les Américains n'ont rien interdit à l'Europe. L'Europe s'est installée gentiment dans son rôle de colonie numérique où,
on est bien dans les pantoufles technologiques américaines.
On bénéficie de l'effet d'échelle et donc pourquoi s'embêter à investir, c'est risqué, tout ça. Et aujourd'hui, où la géopolitique est en train de changer, on dit mais en termes d'autonomie stratégique, en termes de résilience, ça commence à être chaud. C'est pas une position.
C'est vrai qu'on n'a pas été incité à investir. Non, et on l'a pas fait. Ouais. Parce que effectivement, c'était pratique, pas cher, pratique et tout à fait accessible et on gagne.
Oui, et puis on pensait que avec les États-Unis, ça durerait toujours. Après tout, il y avait l'OTAN quand même.
Oui, bien sûr. Et des relations privilégiées avec les États-Unis. Bon, voilà, on a SML malgré tout, on a quelques pépites. Hein. Il y a ST Micro aussi, alors qui est pas du niveau d'un d'un grand fondeur, mais en tout cas qui est là. Tiens, puisqu'on parle de produits chinois, j'aimerais qu'on enchaîne avec le Trump Phone. Vous avez suivi cette histoire-là quand même?
Pas du tout, il est américain. Enfin, voyons, saisis-toi.
Est-ce que vous seriez prêt? Laissez-moi envoyer mon reportage et après on en parle, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Il serait taïwanais.
Exactement. Parce que si vous pourriez peut-être remplacer votre smartphone par un Trump Phone, bon après c'est une question de goût, je ne sais pas trop. Hein. Le président américain, vous le savez, a lancé sa propre marque de mobile dont les premiers exemplaires viennent de sortir. C'est un téléphone censé être ultra patriotique, mais qui fait, vous allez le voir, déjà polémique. Anthony Morel nous en parlait dans Good Morning Business.
C'est un téléphone made in USA, mais qui vient d'Asie. Donc, ça fait un peu tâche, forcément. D'où la controverse autour du Trump Phone, le T1, qui vient juste d'être sorti. Il avait été annoncé il y a un peu plus d'un an. Certains avaient cru à une blague, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs retards. Mais non, il est bien sorti, un téléphone. Alors, que je vais décrire, hein, il est assez voyant. On va dire bling bling.
Il est doré, quoi.
Ouais, il est doré. Voilà, c'est finition dorée.
C'est normal, non?
C'est vraiment Trump Phone, avec Trump écrit en gros, le drapeau américain. Pour la petite histoire, ils se sont plantés sur le drapeau américain. C'est-à-dire que le drapeau américain, normalement, il y a 13 bandes et là, il n'y en a que 11. Donc, il y a eu un problème avec la gravure, visiblement, ce qui a fait partie aussi de la polémique. Et donc, ce téléphone qui, j'allais dire, en termes de caractéristiques et de performances, est assez classique, téléphone milieu de gamme, il devait être le téléphone des patriotes, le téléphone qui prouve qu'on est capable, dans un contexte de guerre économique contre la Chine, de fabriquer aux États-Unis, de fabriquer de A à Z un téléphone américain. Sauf qu'en réalité, quand on gratte un peu le vernis, quand on désosse ce téléphone, eh ben, on se rend compte que en fait c'est une ressucée d'un vieux modèle d'HTC. HTC, c'est une marque taïwanaise, c'est vraiment exactement le même modèle, et quand on ouvre le capot, eh bien on a à l'intérieur, que ce soit l'écran, le capteur photo, les puces, des composants qui sont en réalité asiatiques, ce dont on aurait pu se douter en réalité, à tel point d'ailleurs que l'entreprise a dû changer son marketing, parce qu'ils avaient dit au début téléphone made in USA, mais c'était quand même assez trompeur. Du coup maintenant c'est présenté comme proudly American, donc un téléphone fièrement américain, ce qui est une formulation un petit peu plus floue, on va dire, ça passe un petit peu mieux. Donc forcément, ça fait grincer quelques dents, même si ce téléphone a quand même été commandé par 600 000 personnes.
Ouais, 600 000 commandes quand même, c'est dingue.
Ah mais tu sais, les pigeons, il y en a beaucoup.
D'un autre côté, ils sont 400 millions. Hein.
Ouais, ils sont beaucoup. Bah, 600 000 sur 400 millions, c'est pas énorme, enfin, en termes de statistiques. C'est clair. Moi, je me demande si on l'allume, est-ce qu'on a Village People avec YMCA et Trump qui fait comme ça, là, vous savez, là.
Comme ça,
ça pourrait être sympa. Enfin, sympa, quelques secondes quand même, faut pas exagérer. Alors, votre point de vue sur cette histoire, parce que c'est quand même assez révélateur et ça vient compléter notre précédent sujet, finalement. Parce que voilà, ce téléphone qui se veut être le patriotisme américain à 100%, il est fabriqué à Taïwan, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, à mon avis, le sujet qu'il faut creuser, c'est que les Américains sont incapables de fabriquer ça. On ne peut pas fabriquer un téléphone comme ça aux États-Unis.
Il y a deux choses à voir. C'est un, tout est fake chez Trump. Même son Trump Phone, tout est fait. Et deux, c'est ce que tu disais. On était passé il y a encore une dizaine d'années, tout était mondialisé. Dans un smartphone, il y avait des composants qui venaient à peu près partout, beaucoup de Taïwan, et il y avait ceux qui assemblaient, donc beaucoup qui assemblaient en Chine. Hein. On parle de Huawei, c'était quand même au début, hein, il assemblait, voilà. Mais on va de plus en plus, et on l'a vu avec le sujet chinois, et on va de plus en plus vers des mondes séparés où on essaye d'avoir le contrôle sur tout. Ça, c'est une tentative ratée, a priori, hein, puisque... Mais on aura des smartphones 100% chinois, Huawei, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On aura très certainement un jour des smartphones 100% américains.
Mais le paradoxe, ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'on aura sans doute un téléphone 100% chinois avant qu'on ait un téléphone 100% américain. C'est ça qui est bizarre, mais c'est quand même...
C'est un paradoxe, parce qu'effectivement, la plupart des processeurs, c'est 55% de tous les processeurs mondiaux sont faits à Taïwan. Donc, de toute façon, il va falloir... Et n'oublions pas, il y a aussi, et tu parlais de STMicroelectronics, dans un smartphone, le Face ID, c'est STMicroelectronics. Donc, c'est un smartphone, c'était l'emblème du produit global, mondial, voilà. Est-ce que aujourd'hui, il faut, pour des raisons politiques ou stratégique. En faire des smartphones locaux, 100% américains, 100% chinois, alors 100% européens, on n'y arrivera pas. C'est une question. C'est une vraie question. Mais dire aujourd'hui qu'il y a un smartphone 100% américain, ce n'est pas possible.
Tristan, t'as envie de craquer, hein. Je sens que t'as envie d'avoir ton smartphone.
Il faut que je le dise déjà. Toutes les casquettes MAGA, rouges, là, elles sont fabriquées en Chine aussi. Et donc en fait, ouais, on n'est plus à un mensonge près. Il en a vendu des millions. En disant que c'était très, très américain, etc. Il y a marqué Made in China dedans et il n'a pas changé. Donc en fait, cet homme-là n'est pas concerné par l'intégrité, la morale ou la vérité. C'est pas étonnant qu'il nous pipote sur l'origine de son téléphone. En plus du mauvais goût qui est complètement raccord avec la nouvelle déco du bureau ovale. Donc finalement,
c'est vrai que là, ce téléphone comme ça sur le bureau de Trump, ça va quoi. C'est...
Ouais, moi je l'aurais fait plus gros pour qu'il ressemble vraiment à un lingot, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Et plus lourd aussi, bien sûr.
Oui, bien sûr. Pour être un petit peu plus sérieux, alors peut-être qu'on aura un téléphone européen un de ces jours. En fait, j'ai pas dit tout de suite, hein. Ça, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps et je sais pas si on dispose du temps. De toute façon, on est en train de parler du futur, donc on peut pas le dire. Mais il y a suffisamment de perturbations au niveau de la géopolitique, enfin des choses qui étaient inenvisageables il y a un an, dont les relations avec les États-Unis sont devenues, le coup des droits de douane, le coup d'arrêter un dirigeant en Amérique latine, de bombarder l'Iran, etc., de bloquer le détroit d'Ormuz sans demander la permission ou essayer d'embarquer.
Avec les conséquences mondiales ça sur l'économie.
Donc en fait, on est dans un moment extrêmement perturbé qui abîme la mondialisation. Avant, on pouvait se dire, je vais envoyer un cargo, il va arriver dans 2 mois, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il va arriver. Là, t'as le détroit d'Ormuz, t'as les tarifs, il y a plein d'imprévus, et ce qui fait que ce qui marchait avant, on est amené à le repenser. Et finalement, peut-être que ça va continuer. Peut-être que on va s'embrouiller avec les Américains ou avec les Chinois ou je ne sais quoi, et faire que ils vont l'un ou l'autre des camps va nous refuser, va nous bloquer l'approvisionnement en smartphone ou en puce électronique ou en serveur ou en différentes technologies. On peut très bien entendre les Américains dire on n'a plus le droit aux puces Nvidia haut de gamme. Enfin, j'en sais rien, mais je sais que ça paraît absurde. Mais il y a un an, des tas de choses paraissaient absurdes et elles sont devenues une réalité aujourd'hui. C'est vrai. Donc en fait, la question, c'est vraiment...
Les relations s'enveniment pour que...
Voilà, exactement. Et on est complètement accro au numérique parce qu'on a tout numérisé dans les entreprises, dans les interactions entre l'administration, les Français, etc. Que, en fait, se posent des problèmes de résilience numérique. Si jamais on subit un nouveau choc, à quel point on est résilient, à quel point on arrive à faire tourner les entreprises, l'administration, etc., avec un choc qui serait à venir. Et donc, à ce moment-là, peut-être que avoir un smartphone européen va s'imposer de lui-même.
Souvenez-vous, on en avait un, hein, Alcatel, Ericsson,
oui, Nokia.
Siemens.
Ouais. Siemens.
Tu te rappelles ?
Mais
oui, bien sûr.
Mais c'était il n'y a pas si longtemps.
Non. Bruno ? Est-ce que tu peux nous montrer ton Trumpphone ? Je sais qu'il est caché sur ton bureau.
Il en a deux.
Tu peux nous montrer.
Non, je suis en train de les charger.
Et parce que l'autonomie n'est pas terrible.
Non, c'est pas tellement fort. Non, mais c'est ça. Mais mis à part tous les excellents éléments qui ont été mentionnés par mes collègues, moi, je veux quand même revenir sur le côté, j'allais dire, économique ou quand même frasque financière de la chose. Parce qu'il y a un an, quand on a présenté ces appareils-là aux fans de l'administration Trump, le modèle qui était présenté ressemblait pas mal plus à un iPhone de haut de gamme que cet appareil-là. Puis finalement, on se rend compte que les gens se sont vraiment fait berner. Ils ont payé l'équivalent de quelque chose comme 500 $ pour avoir un téléphone qui en vaut presque 100 $ Et ils ont attendu un an. Et là, en tout cas, quand ils vont le recevoir, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est sûr que ce qu'on avait promis, vous me direz, c'est... équivalent du reste de l'administration, là. Mais on est loin comme produit électronique, on est très loin de ce qui a été promis. Et puis après, mais il faut savoir que sur le réseau de Trump Mobile, parce que c'est pas qu'un téléphone, hein, c'est aussi un réseau cellulaire qui existe à la grandeur des États-Unis, on propose l'iPhone, on propose des téléphones de Samsung. Sauf qu'évidemment, là, on a voulu faire un coup d'argent parallèlement, et on a proposé le téléphone, et il y a malheureusement 600 000 personnes qui se sont fait peler le poil.
Mais je ne savais pas qu'il y a un réseau mobile, Trump.
Oui, c'est un MVNO. C'est un opérateur mobile virtuel.
Ah
ouais,
d'accord.
Oui, et avec un tarif qui est là aussi marketé.
Oui, 45-47.
45-47.
Wow.
Ça veut dire 45e président, 47e président. Tout est marketé $45. Et tout a l'air d'être un peu faux. Voilà.
Dingue, c'est incroyable.
Mais alors, ce qui est assez étonnant, et tu lançais le sujet sur les 600 000, c'était il y a un an. La popularité de Trump
a dégringolé depuis quand même.
N'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, s'il le lançait.
Ouais. On va voir sur le bon coin si on a des Trump mobiles en vente à des prix cassés.
Tiens. Je vais me faire l'avocat du diable juste deux secondes. Pour une fois, je vais défendre Trump ou les gens qui font du business pour Trump Mobile. Tu sais, quand tu montes une start-up et que tu sors un produit, on dit toujours, si t'as pas honte de la première version, c'est que tu l'as sortie trop tard. Et donc, bah là, et c'est juste la première version. Bon, j'espère qu'ils ont un peu honte, mais il fallait pas qu'ils attendent plus longtemps. Peut-être que la V2 sera bonne.
Ça sera meilleur.
Ou qu'ils vont planter la boîte.
Et d'ailleurs, c'est la pression sociale qui a fait en sorte que l'appareil est sorti. Parce que moi, je me souviens, il y a environ quelques semaines, j'étais à votre émission, mon cher, et je parlais de cette histoire-là. Et suite à ce que j'ai dit, mais pas uniquement moi là, mais ce que d'autres médias aux États-Unis ont fait, ben très rapidement, les gens se sont tournés dans 48 heures.
D'accord.
On envoyait des communiqués de presse, on envoyait des annonces aux gens qui avaient acheté en disant oui, le téléphone arrive et on vous le présente très bientôt.
Bon, écoutez, on laisse le Trump mobile se recharger parce que visiblement l'autonomie n'est pas terrible. Et enfin, il y en a encore, c'est une autonomie de 2 ans là, non? Mine de rien, encore.
Deux
enfin, Trump, ah oui, Trump ah oui, oui, son c'est autonomie ça. Est encore de 2 ans.
Ah oui.
Voilà. On revient dans un instant, bientôt 20h. Petite pause, on attaque notre deuxième partie de ce Tech & Co la quotidienne et on parlera de cette révolution chez Ferrari qui a fait couler beaucoup d'encre et grincer beaucoup de dents. C'est cette Ferrari électrique, on en parle dans un instant. C'est Tech & Co la quotidienne, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Merci d'avoir choisi BFM Business et d'être fidèle à Tech & Co. On est là chaque soir, du lundi au jeudi, 19h30, 21h, pour commenter l'actualité tech et essayer de décrypter tout ce monde qui va à une vitesse incroyable. On n'a pas encore beaucoup parlé d'IA, on va en parler dans quelques minutes, avec notamment cette initiative albanaise, avec cette ministre albanaise qui est en fait une IA, c'est assez étonnant. Vous allez voir, c'est très intéressant, mais pour débuter, toujours avec Bruno Guglielminetti depuis le Québec, Tristan Nitto, évidemment sur ce plateau, et Enguerrand-Renault, je vous invite maintenant à parler de Ferrari. Ferrari qui a été chahutée en bourse, le titre termine en baisse de plus de 7%, parce que la marque de luxe italienne présentait hier son premier modèle 100% électrique. Mais la Luce, comme on dit, très attendue par les observateurs, n'a pas convaincu. Son design en particulier fait s'étrangler les fans de la marque et inquiète aussi les analystes. Justine Vasson nous raconte tout cela et après, bien évidemment, on en parle sur ce plateau.
4 portes, 5 places, des formes arrondies, un design minimaliste, la Luce, imaginée par 2 anciens chefs du design d'Apple, fait perdre leur latin aux connaisseurs de Ferrari. L'extérieur du véhicule marque une rupture radicale avec le langage stylistique habituel de la marque, note prudemment les analystes d'Odo BHF. Chez Air Capital, on se dit perdu avec ce nouveau design. Sur les réseaux sociaux, cela va beaucoup plus loin. La Luce est tout simplement moche, selon de nombreux internautes. Certains points pointe une ressemblance troublante entre l'extérieur de la voiture et celui d'une Nissan Leaf. Or, cette dernière, rappelle-t-il, coûte 35 000 $ quand la Luce est affichée à 645 000. Autre problème, selon plusieurs spécialistes déjà rencontrés par Lamborghini. Par exemple, celui du bruit du moteur à combustion, absent par définition. Ferrari a travaillé pendant 5 ans sur le son de son moteur électrique pour l'amplifier et offrir à ses conducteurs un semblant de rugissement, pas suffisant, semble-t-il, pour convaincre les puristes.
Voilà, Justine Vasson qui nous explique le lancement, on va dire, un petit peu chahuté de cette nouvelle Ferrari. Alors, on peut saluer l'initiative de Ferrari de passer à l'électrique. C'est un signe plutôt positif quand on sait qu'aujourd'hui, bah voilà, le prix des carburants augmente. Alors, vous allez me dire, si vous achetez une voiture à 500 000 euros, oui, finalement, un plein à 50 ou à 100 euros, c'est pas ça qui va vous changer la vie. Mais malgré tout, il fallait que Ferrari aille un petit peu dans le sens de l'histoire en lançant une voiture électrique. C'est le cas. Alors pourquoi on en parle au-delà de on va dire des atermoiements divers? C'est que cette voiture, elle a été designée par un certain Jonathan Ive. Et Jonathan Ive, c'est le monsieur qui est derrière, on va dire, tous les produits emblématiques d'Apple, l'iPhone bien sûr, les Mac, les premiers Mac. Mais aussi l'iPad, voilà, il a travaillé sur l'Apple Watch. Il l'a quitté Apple il y a quelques années de cela. D'ailleurs, un départ assez surprenant. Hein, on s'attendait pas à ce que Jonathan Ive, qui faisait partie véritablement de l'ADN d'Apple, s'en aille.
L'ancienne garde qui finalement est parti.
Et qui était très proche de Steve Jobs.
Ces dernières années.
Il était très proche de Steve Jobs. C'était un ami de Steve Jobs. Donc, il est parti. Il a créé sa boîte en Angleterre de design. Et donc, c'est lui qui est aux manettes du design de cette voiture. Et alors, c'est rigolo parce que sur les forums, et tous les fans, les puristes de Ferrari disent « c'est un scandale, cette voiture ne ressemble pas à une Ferrari, etc. Mais que se passe-t-il » Et puis d'un autre côté, il y a les fans d'Apple qui disent « waouh, mais est-ce que ça serait pas finalement un peu l'Apple Car qu'Apple n'a jamais sorti, cette Ferrari ?» Et c'est de ça dont je voulais vous parler voilà, ce soir, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'il y a deux écoles et deux philosophies qui s'affrontent. Bruno, est-ce que tu as eu cette réflexion aussi quand tu as vu cette voiture et que tu t'es dit « Ah, il y a Jonathan Ive derrière quand même ».
Ben, moi, j'avais l'impression, au premier coup d'œil, là, j'avais l'impression de plus voir ce qu'aurait pu être l'Apple Car que ce qu'est une Ferrari. D'autant plus que quand on regarde la couleur qui a été choisie, un bleu comme ça, là, ça aurait pu coller à quelque chose qui venait de Cupertino. Mais je veux juste revenir sur le fait qu'il y a un an, moi, j'étais à Maranello, chez Ferrari, et justement, je leur parlais, évidemment, ils m'avaient pas dit qui était derrière ce projet-là, mais on parlait qu'on était en train de développer, ça avançait bien, une voiture électrique. Mais je vais demander, est-ce que ça va ressembler à ce qu'on connaît, mais ça va carburer, entre guillemets, à l'électrique? Puis on me disait, on est vraiment en train de regarder toutes les tentatives. Puis finalement, un an plus tard, de voir ce modèle-là sortir. Je reviens encore sur le fait que le modèle qu'on utilise pour communiquer, mis à part cette vidéo qu'on voit à l'écran, c'est le modèle bleu. Ça n'a rien à voir avec la culture de Ferrari. Nous, on vient de passer une semaine dans le Grand Prix de Montréal. Quand on parle de Ferrari, c'est jaune ou c'est rouge. Oui, oui. C'est jamais bleu, peu importe la teinte de bleu. Alors, c'est sûr que les puristes, quand on voit une bagnole comme ça, qu'on nous prête, je dis bagnole, un peu de respect, là. Ce véhicule électrique qu'on présente, dans les grands reportages, il est toujours bleu. Et puis, heureusement, ils ont fait des vidéos où on voit quand même la voiture en rouge. Mais ultimement, on ne sent pas que c'est une Ferrari. Mais de l'autre côté, ceux qui, les fans d'Apple, se disent, ça aurait pu ressembler à ça. Et c'est ça qu'on n'aura pas.
Enguerrand, on a tous été impressionnés par le designer Jonathan Ive, qui a fait des produits mythiques. Hein, voilà, l'iPhone. Il travaillait aussi sur le ressenti du soft. En fait, il n'était pas que un designer de on va dire
matériel.
Matériel. Il donnait son avis aussi sur tout ce qui est logiciel. Il y a des petits raffinements technologiques d'ailleurs sur cette voiture Ferrari qui sont impressionnants, notamment la clé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la clé, quand vous la posez au milieu de la Ferrari, il y a un écran carrément sur la clé. Qui se transforme en fait, le cheval disparaît, je crois. Enfin, il y a plein de petits, on va dire, de petits tours de magie design qui font que on se dit waouh, quand même, c'est cool. Et ça fait penser un peu aussi aux premiers émois qu'on a pu avoir avec les produits Apple.
Alors moi, je trouve que les critiques sont assez mal fondées. Elle est assez jolie cette voiture.
Tu en as commandé une d'ailleurs, je crois.
Deux,
oui, c'est vrai.
Une jaune. Et une rouge.
Ah, ben voilà,
mon ami Bruno.
Dans ton garage de 1000 mètres carrés, il n'y aura pas de problème.
Donc j'en ai commandé deux. effectivement.
Satellifax, ça marche, hein?
Ouais. Effectivement, quand on commande une Ferrari, c'est statutaire, d'accord? Il faut le bruit et il faut que ce soit reconnaissable par tout le monde dans la
rue. On va en parler du bruit, tiens.
Quand on met autant d'argent. Moi, je la trouve plutôt belle. L'arrière rappelle véritablement Ferrari. L'avant, bon, c'est plus innovant. C'est à mon avis très bien qu'ils aient fait appel à Johnny Ive. Le vrai sujet derrière, c'est peut-on avoir une Ferrari électrique? Lamborghini s'y était mis avant et il est revenu, parce qu'une Lamborghini électrique, c'est aussi compliqué. Porsche avait beaucoup insisté, a mis beaucoup d'argent dans l'électrique et avec les résultats qui ont été assez mauvais. Porsche, pour une fois, a eu des grosses difficultés financières. C'est assez bizarre parce que le marché de la voiture va vers l'électrique, mais le très haut de gamme comme ça,
oui,
c'est très difficile de faire accepter par les puristes que c'est électrique. Or, les performances, quand on est dans une voiture électrique, effectivement, si on recherche l'accélération et la performance, ça va beaucoup plus vite
qu'une voiture thermique.
Atmosphérique,
hein. Bien sûr, c'est clair.
C'est clair. Donc, on s'y fera. Je pense
qu'on s'y fera. Bon, d'accord. Tristan, tu vas t'y faire ou pas?
Je ne suis jamais monté dans une Ferrari de ma vie, donc je ne peux pas te faire une expérience avant-après. Moi, je me mets à la place des équipes de Ferrari qui sont quand même, qui doivent sortir un tour de magie, un truc un peu compliqué, parce qu'ils ont en fait une clientèle. Un peu comme Harley Davidson aussi, je suis motard, et c'est des gens qui n'ont pas envie de changer. Non. Ils ont les idées très précises, donc ça doit être
le rouge,
doit
faire
peut-être jaune si vraiment...
Ouais, voilà, et quoi, encore, mais... attention au jaune, quoi.
et le moteur et l'architecture, donc c'est évident que c'est un moteur thermique, etc. Mais c'est pas le sens de l'histoire, donc il fallait un moteur électrique. Mais là, même s'il avait fait... si c'était parfaitement réussi, il y aurait forcément eu des gens qui seront très vocaux en disant c'est pas une Ferrari parce que c'est électrique.
Oui.
Et je comprends bien le truc, mais pour avoir essayé des véhicules électriques, en l'occurrence,
il y a une Harley qui est sortie électrique, je crois.
Oui, j'ai pas pu essayer. Moi, j'ai essayé des Zero Engineering et c'est fabuleux.
Ouais.
C'est vraiment. Enfin, en termes d'accélération, j'ai pas pu accélérer à fond. J'ai crié dans mon casque et j'ai coupé avant la fin, quoi. j'ai essayé de tourner la poignée. Donc il y a pas de problème. C'est mieux en termes d'accélération.
C'est pas autant d'autonomie, c'est ça qui est embêtant.
L'autonomie est un problème, mais en fait, si on s'en sert au quotidien, ce qui n'est pas l'usage d'une Ferrari, je reconnais, mais au quotidien, l'électrique c'est top tant que t'as pas besoin de faire 250 km ou 500 km ou 800 km, ce qui est finalement très rare. Donc c'est vraiment super l'électrique, mais il n'y a pas cette magie du chant, et aussi bien chez Harley Davidson que chez Ferrari, de ce son qu'on attend, qui est envoûtant, qui est excitant. Les Japonais aussi, avec des 4 cylindres, ont le même genre de problématique. C'est comment est-ce qu'on fait quelque chose qui suscite de l'émotion. Et ben, on a été élevé avec le thermique, et les futurs propriétaires de Ferrari, etc. aussi, et s'attendent à cette sensation du moteur hurlant. Et qui disparaît forcément.
C'est toute la difficulté quand t'es né avec le moteur thermique, hein, et t'étais dans l'exception. Et là, si tu vas dans l'électrique, bah t'es à peu près avec tous les autres. Les performances sont quasiment identiques.
Je veux dire,
tu conduis une voiture électrique, ça va très très vite tout de suite, quoi.
Bruno,
c'est évident.
Bruno.
Ouais, François, on parle beaucoup de Ferrari, de l'image, mais il y a aussi l'interface, l'expérience utilisateur qui est intéressante. J'écoutais une entrevue avec Johnny Ive un petit peu plus tôt aujourd'hui, et ce qu'il a voulu faire aussi, c'était revoir l'interface pour, j'allais dire, le pilote, celui qui a défrayé le coût de la voiture, parce que lui, il en a contre le contrôle tactile dans les nouvelles voitures électriques. Il dit que c'est une aberration et donc il a voulu revoir ça. Évidemment, on verra avec l'expérience des premiers acheteurs qui ont ça, mais on joue sur la voie, on revient avec des choses qui sont plus classiques. Et ça va être intéressant. Et j'avoue que quand j'ai regardé l'intérieur et j'ai entendu cette entrevue-là avec lui, je pensais au nouveau produit qu'il est en train de développer pour les gens d'OpenAI, parce que ça aussi, ça va passer par l'œil de la critique. Ouais. Il est en train de créer un nouvel objet. Certains parlent d'un téléphone, certains parlent d'un pendentif qui va permettre de communiquer, de faire des choses merveilleuses. Alors, si on prend l'exemple de la Ferrari qu'il livre aujourd'hui, et puis qu'on essaie de pousser le concept à un objet de communication pour OpenAI, moi j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais c'est sûr que dans les grandes lignes, j'avais plus l'impression de voir un Apple Car qu'une Ferrari quand j'ai vu ça en image aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette voiture, quand elle accélère, elle a un bruit. Mais elle n'imite pas le bruit d'un moteur thermique, parce que Ferrari s'est dit, ça va faire trop cheap et c'est pas... partir.
J'ai essayé une Golf avec un faux bruit de moteur.
Ouais, c'est une
catastrophe. C'était vraiment à pleurer, quoi.
Là, je pense que les fans de Ferrari se suicident sur le bitume, quoi, s'ils entendent ça. Donc, ils se sont dit, on va essayer d'amplifier le bruit d'un moteur électrique. Ils sont partis d'une page blanche et... Il paraît que quand on accélère, on a un peu comme le bruit d'une guitare électrique, quoi. C'est un truc assez étonnant.
Ah, là.
Non, on n'a pas, malheureusement. Non.
J'adorerais écouter. Je l'ai pas écouté avant, donc je peux pas dire. Mais le bruit pour une Ferrari, c'est effectivement.
Bon, en tout cas, voilà, ça fait
une partie du prix.
Ça fait une partie du prix, et puis ça fait jaser, cette histoire-là. Donc, on verra bien si c'est un succès ou pas. Dans l'actu, on reste sur le monde du véhicule, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à Waymo. Waymo, vous le savez, ce sont ces véhicules autonomes qui, aux États-Unis, servent de taxi. Hein, c'est devenu, on va dire, assez banal, finalement, de commander sur son appli Waymo, sur son Android ou sur son iPhone, un Waymo, et donc là, quelques minutes après, vous avez votre voiture qui arrive, il n'y a pas de conducteur, vous avez votre nom qui s'affiche en fait en haut du véhicule, c'est assez drôle, comme ça vous êtes sûr que c'est votre voiture, vous montez dedans et puis c'est parti, voilà, vous pilotez tous les services de confort, vous pouvez monter la température, la baisser, choisir votre playlist, c'est vachement impressionnant et c'est très agréable, bien sûr, Waymo marche bien, mais parfois, ça marche moins bien. C'est ça un peu l'actu de ce soir, c'est que en fait, il y a pas mal de, on va dire, de contraintes climatiques qui font que ça marche pas. Par exemple, quand il y a une inondation sur la route, là, les Waymo, elles font comme ça, quoi. Elles disent stop, les gars. Je sais plus trop comment ça marche. Tu as suivi un petit peu cette actu, Bruno?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, des problèmes qui avaient été publicisés par les usagers de Waymo, c'est notamment justement la façon des véhicules de gérer l'abondance de l'eau sur les autoroutes. Parce que plutôt que de ralentir, ce qui est le bon sens et ce qui est recommandé par les autorités qui gèrent le dossier des automobiles sur les grandes voies, la Waymo, elle a gardé la même vitesse, puis de temps en temps, elle accélérait. Alors évidemment, là, il y a des lumières rouges qui ont commencé à allumer ici et là dans les...
Oui, les ABS, tous les systèmes de tenue de route, en fait. Ouais, ouais.
Exactement. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu des signalements qui ont été faits aux autorités. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se dire, il y a peut-être un problème par rapport à... Bon, en Californie, ça peut aller, ou au Nevada, ça peut aller, où il fait très beau la plupart du temps. Mais quand on commence à offrir ce service-là à Austin ou à Miami, puis là, on est en train d'aller ailleurs, je pense à New York, on est en train de faire des tests, ou à Londres, ou à Tokyo, là, on commence à avoir la météo qui n'est pas nécessairement la même chose. Alors, il faut qu'ils revoient. Et là, il y a une énorme mise à jour du logiciel qui va être faite pour essayer de donner un peu plus de bon sens à ce véhicule-là.
Parce que je vous rappelle qu'à Londres, il pleut plus que
à San Francisco.
Donc, il ne faudrait pas que la Waymo soit quand même un peu perturbée, non ? Tu voulais dire quoi en
oui,
sur ce sujet ?
Vous avez ce qui a été signalé, c'est effectivement la conduite de la Waymo sous la pluie, et puis le fait qu'ils étaient un petit peu perdus par les travaux. À un moment, ils prenaient des chemins, ils recalculaient les chemins qui faisaient que ça prenait des heures et des heures et des heures, et que finalement le transport n'était pas très 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 sympathique. Donc il y a eu quelques plaintes. Effectivement, il va y avoir une mise à jour. La vraie difficulté, la vraie question, c'est quand est-ce que ça va arriver en Europe ? Ça doit arriver à Londres au début. Effectivement, je me disais si c'était arrivé à Paris pendant tous les travaux avant les JO de 2024, la Waymo aurait été totalement perdue.
Ah oui, alors là,
elle aurait été perdue,
complètement perdue. Elle aurait terminé dans la Seine.
Elle aurait terminé dans la Seine.
Bruno.
Et après, quand même Tristan. En tête qu'elle évolue rapidement, hein, oui, parce que souvenez-vous, quand la Waymo est sortie dans les premiers mois, la façon de protester par rapport à l'arrivée de cette voiture autonome, c'était d'aller mettre un cône orange devant le véhicule arrêtait. Avec le temps, et les ingénieurs ont travaillé, et la Waymo était capable de passer à côté du cône. Mais elle a encore beaucoup de difficultés à gérer les zones de travaux, et c'est pour ça qu'on veut encore bonifier là, sa réflexion par rapport à ce contexte là, de lieux en construction ou en rénovation sur les routes.
En fait, ça reste une information un peu légère tant qu'il n'y a pas eu d'accident grave. Et c'est le cas, visiblement. Il y a eu, on a constaté des choses qui n'étaient pas, on va dire, logiques et normales, mais malgré tout, il n'y a pas eu d'accident ou de drame. Donc, après, on se dit, finalement, ces voitures-là, elles ont des mises à jour perpétuelles. C'est un peu comme nos téléphones, où on comble, des failles de sécurité, on corrige des trucs qui marchent moins bien, etc., etc.
Et puis, une acquisition des données, quand elles sont utilisées, ils apprennent des nouvelles situations. Et c'est en fait une bonne partie du métier de Waymo, c'est de gérer de la big data pour améliorer leurs algorithmes sur la base de l'accumulation de données. Donc plus il y en a qui roulent, mieux ça se passe, quoi. Bon, évidemment, il faut apprendre à gérer les inondations, les travaux.
Exactement. Bon,
ça va venir.
Et donc tu le disais, Bruno, hein, Waymo va arriver bientôt. En Europe, non. On va commencer par Londres. Et je crois que d'autres villes européennes vont être déployées. Il était temps parce que Waymo commence véritablement à s'installer aux États-Unis. Et c'est vraiment très sympa.
Bien qu'il les fasse moins moche quand même. Hein. Enfin, j'espère que ça viendra un jour, mais là.
Ouais, c'est vrai que c'est un gros bébé la voiture. Elle est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ouais. On pourrait demander à Ferrari, tiens.
Allô, Johnny Ive.
Voilà, Johnny Ive, design-nous une belle Waymo, s'il te plaît. On enchaîne avec cette info assez étonnante. On part en Albanie, si vous le voulez bien. La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le sort de la ministre chargée de limiter la corruption. Alors, elle s'appelle Diela. Et c'est une intelligence artificielle. C'est pas un humain. Non. C'est une IA. Une première mondiale au poste de ministre. Mais depuis son entrée en fonction, c'était en septembre dernier, on en avait parlé d'ailleurs dans Tech & Co.
Ici, ouais.
Elle est vivement critiquée par l'opposition au Parlement. Paul Waller nous explique cette histoire cocasse et on revient juste après.
Un ministre doit forcément être une personne physique pour l'opposition albanaise. Elle estime que la nomination de Diela est inconstitutionnelle. La ministre albanaise générée par IA leur répond.
Certains m'ont qualifié d'anticonstitutionnel parce que je ne suis pas un être humain. Cela m'a blessé, mais pas pour moi-même, mais pour les 972 000 interactions que j'ai eues avec les citoyens et dont j'étais au service dans le cadre d'Albania, et aussi par rapport à 36 000 documents numériques que je leur ai délivrés. Je ne suis pas ici pour remplacer les humains, mais pour les aider.
L'intérêt d'installer une IA au poste de ministre anticorruption était de préserver les marchés publics de tout conflit d'intérêts, selon l'exécutif albanais. L'opposition dénonce, elle, un coup de com' et un manque de transparence du fonctionnement de l'outil. En janvier dernier, la justice albanaise a placé deux concepteurs de Diela en résidence surveillée. Elle les soupçonne de corruption en lien avec un groupe criminel.
Alors bon, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus, parce que c'est vrai qu'en Albanie, il y a un peu de corruption, on va dire. Et c'est vrai que dès qu'on arrive à un poste important, ça peut être tentant. Et je trouve que l'idée de départ de se dire, on va mettre une IA pour un poste sensible, justement pour limiter la corruption, c'était plutôt intéressant. En tous les cas, comme une, on va dire, une expérience. Voilà. Mais donc là, visiblement, il y a le parti qui est un peu opposant, hein, au gouvernement, qui monte un peu au créneau. Bruno, qu'est-ce que tu en penses de cette ministre gérée par l'IA?
Ouais. Ben, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, pour l'avoir couvert, ben, un peu comme vous autres, dès le départ, c'est que la Cour constitutionnelle albanaise, là, va devoir trancher. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là pour offrir du service aux citoyens en ligne, ce qu'elle fait très bien et tout le monde, personne se plaignait, ou est-ce qu'on peut l'amener dans l'arène politique et lui donner un statut de ministre et de prendre des décisions qui vont avoir une influence sur l'avenir du pays. Et ça, il y a comme un pas important. On a déjà vu des IA qui deviennent PDG d'une entreprise, sauf que de l'autre côté, le conseil d'administration et le président du conseil d'administration sont hyper puissants et ont presque les mains sur le guidon pour orienter l'entreprise. Mais là, dans ce cas-là, on se dit, ben, tout un ministère qui serait sous les guérites de cette IA-là, c'est une chose. Mais parallèlement, puis ça, je ne l'ai pas entendu dans le topo, mais parallèlement dans cette histoire-là, ce qui est amusant, c'est que l'actrice qui a donné son visage et la voix à ce personnage virtuel, à cet avatar, même elle n'est pas d'accord avec l'utilisation du fait que dans son contrat, quand elle a signé son image, sa voix, elle a dit que c'était uniquement pour être un assistant en ligne, pour servir les citoyens, mais que jamais elle aurait accepté si cet outil-là, elle savait que ça allait finir dans l'arène politique. Alors même de ce côté-là, c'est, peu importe le verdict qu'ils vont avoir, les créateurs de cet avatar-là, de cet IA-là, vont devoir régler un problème avec la représentation humaine de cet outil-là.
Voilà, on évoque tous les soirs dans Tech & Co l'impact de l'IA dans tous les secteurs, et même dans le secteur politique, on va dire, et gouvernemental, ça va avoir un impact. Tristan, qu'est-ce que tu en penses?
Mais je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des imbéciles, et que en fait dire que une IA est ministre, pour moi c'est n'importe quoi. Ça veut pas dire que l'IA peut pas être utile dans les relations avec les citoyens, les aider.
Ou aider certains gouvernements peut-être de manière.
Oui, éventuellement, ouais, pourquoi pas, mais l'idée qu'elle soit ministre, c'est n'importe quoi. Déjà, une IA, c'est du logiciel, c'est pas une personne. Donc, on a déjà ce gros défaut et cette qui est exploité par les fabricants d'IA, qui est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire cette tendance à considérer que c'est des humains et ils utilisent ça pour séduire avec les produits. Enfin, on se tutoie, on peut l'interroger sur ses sentiments, etc. Alors que c'est juste du logiciel. Donc là, c'est gênant. Mais bon, c'est des gens, ils sont là pour vendre leurs produits, donc bon, je comprends qu'ils soient prêts à tirer toutes les ficelles, mais que un gouvernement fasse ça, je trouve ça irrespectueux vis-à-vis des citoyens. Ce qui ne veut pas dire que l'IA est inintéressante dans
Moi, ce que je trouve, des affaires. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour ne pas en fait céder à la tentation de la corruption, parce qu'en fait, elle était là pour ça. Hein. Je crois qu'elle elle réglait des problèmes. Enfin, elle réglait des problèmes de contrat, etc. Qui aurait pu être, on va dire, contaminé par la corruption. Et le fait d'avoir une IA, au-delà qu'elle soit ministre ou non, finalement, c'était de dire à tous les responsables, c'est pas moi qui décide, c'est l'IA qui va trancher et qui va donner tel marché à telle boîte, etc. En fait.
Ce qui est
sans corruption,
ce qui est abyssal dans le reportage que vous avez diffusé, c'est plusieurs choses. Un, déjà, c'était une soi-disant ministre anti-corruption, et j'ai entendu, je ne le savais pas, que les concepteurs eux-mêmes sont en taule parce que ils sont soupçonnés de corruption. Donc déjà
en résidence surveillée.
Voilà. Et bon, c'est déjà un peu compliqué. Ce que disait Tristan, c'est très vrai. Là, il va y avoir une décision, et ça c'est, à mon avis, extrêmement important, une décision constitutionnelle sur l'IA peut-elle être considérée comme une personne. Effectivement, on passe d'un logiciel et qui résout des problèmes, mais comme beaucoup d'administrations à travers le monde. Hein. Mmh. C'est pas ça. Et là, l'IA est dans son rôle, c'est-à-dire qui résout des problèmes, et quand elle dit j'ai X milliers d'interactions, oui, j'ai résolu des problèmes, c'est ce qu'on demande à l'IA. On lui demande pas de devenir une personne. Et dans le reportage, là, elle se défend en disant j'ai été blessée. Alors si une IA commence à être blessée ou vexée, si on lui prête des sentiments humains,
et qu'on l'humanise en quelque sorte.
Et qu'on l'humanise. Et là, il va y avoir une décision constitutionnelle qui va dire non, l'IA, je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais l'IA, à mon humble avis, devrait rester un outil. On ne va pas prêter à la fois des sentiments, un visage et une qualité anticorruption à quelque chose qui n'est effectivement que du logiciel. Ça paraît poser des vraies questions.
Ouais.
Alors que, en fait, il y a, la corruption, c'est un problème qu'on retrouve partout, qui est plus ou moins contrôlé. Il y a des méthodes pour lutter contre ça, des vérifications, des procédures, etc. Il n'y a pas de raison que ça s'applique pas à l'Albanie, quoi.
Mais bientôt, quand on aura un parquet anticorruption fait d'IA qui devra dire si une ministre est corrompue ou non,
on arrivera dans
un monde nouveau.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Bruno. À très vite. Bruno.
À très bientôt.
Minetti, journaliste animateur de son carnet de l'actualité numérique. Merci à Tristan Nitto, directeur associé Commun Numérique et Anthropocène chez Auto Technologies. Et merci aussi à Enguerrand Renaud, directeur de la rédaction de Satellifact. Et à très vite, messieurs. Allez.